Sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Eh oui, auditrices intrépides et auditeurs malins, nous voilà de retour, comme tous les quatrièmes lundis de chaque mois sur 89.4 Radio Libertaire, dans une nouvelle émission de Science en Liberté, pour examiner ensemble quelques bases de la biologie et quelques idéologies qui s'y dissimulent encore. La biologie est au cœur de la société, tant par ses avancées scientifiques que par les énoncés normatifs qu'on attribue à la nature. Voyons. La biologie affirme qu'elle se fonde sur une idée puissante, l'évolution des êtres vivants. Rien ne peut se comprendre sans la lumière de l'histoire évolutive. Le récit d'Emmanuel montre pourtant que l'évolution n'y possède encore qu'une place assez marginale. En outre, l'enseignement de la biologie paraît échouer à retoucher nombre d'erreurs, nombre d'approximations notoires que partagent nos contemporains. De fait, dans la plupart des abrégés de biologie, Darwin est trop souvent considéré comme le seul véritable fondateur de la biologie évolutive et la sélection naturelle est présentée comme le principe universel de l'évolution. Pourtant, les importants malentendus qui persistent à propos du discours scientifique révèlent à la fois des lacunes éducatives et laissent supposer que l'évolution ne serait pas une condition nécessaire à la biologie, nécessaire à la biodiversité. Car l'Emmanuel ne consacre que quelques pages pour décrire cette loi de la sélection naturelle que chacun doit comprendre comme il peut. En effet, cette loi évolutive, la sélection naturelle, qui semble toute simple, défie souvent l'entendement. Il n'y a pas de sélectionneur, la sélection laisse plus de diversité avant qu'après, et cela n'améliore pas les choses. Comment donc le petit papillon noir qui se dissimule mieux que le blanc sera-t-il sélectionné par le processus évolutif que le bec des oiseaux ferait peser sur lui? Ah, la lutte infinie pour la survie! Et cette idée d'une sélection qui peu à peu construirait un progrès des êtres vivants, les meilleurs parmi les autres, est-elle si vraie et si neutre que cela? Il serait bien tentant d'affirmer, chacun pour soi, avec un ego en montée plus ou moins douce, vers des sommets de perfection et aussi de solitude. Ah, ce sentiment étrange de la solitude! Et cependant, sur cette planète, même l'individu le plus solitaire dépend des autres. Il fallait le dire, les êtres vivants vivent ensemble. Eh oui, ensemble. C'est-à-dire que tout se joue dans une communauté des espèces, les unes avec les autres. parfois les unes contre les autres, mais pas les unes sans les autres. Ce qui compte après tout, c'est l'établissement des relations entre chacun et entre tous, sans qui nous ne serions rien sur cette planète. Car nous allons voir que l'évolution est une écologie.
Et oui, pour parler de cela, nous allons aborder le livre qui vient de sortir chez Odile Jacob, là, en début novembre, « Manifeste pour une écologie évolutive, Darwin et après ». Et nous allons chercher ce que cela change. Bienvenue sur Science en Liberté pour découvrir ce nouveau livre « Manifeste pour une écologie évolutive ». Bonjour Thierry.
Bonjour Siona.
Tu viens donc de publier, en novembre, ce livre qui s'appelle « Manifeste pour une écologie évolutive, Darwin et après ». Chez Odile Jacob, nous allons en parler. Ce livre est organisé autour de 10 chapitres. Donc, je l'ai dit parce que je pense que ça situe le livre. Une histoire naturelle, un besoin de relecture, la rénovation théorique, le gène égoïste, le néo-lamarckisme, créationnisme et eugénisme, une nécessaire critique, évolution et libre-échange, impossible dépassement, et pour terminer sur le 10e chapitre, l'évolution des différences. Donc, l'idée générale, c'est que l'évolution se fait du point de vue écologique. Le style de ce livre est d'ailleurs différent de tes ouvrages différents. Tu peux nous développer tous ces éléments ?
Oui, par rapport à mes précédents ouvrages, ce livre a été écrit dans un style qui est plus, on va dire, sérieux, qui est plus biologique, qui s'adresse davantage à des gens qui maîtrisent déjà un petit peu la biologie. L'objectif est aussi de traiter très sérieusement de choses en réduisant les exemples de manière à faire un livre court, facile à lire et qui soit rapidement ancré dans le monde des idées.
Bien que pour le style, tu as scindé ton livre en d'abord les chapitres, puis il y a des annexes qui appuient tout ton argumentaire, ce qui fait que même si certaines personnes connaissent quand même un petit peu moins, elles peuvent avoir le déroulé dans les annexes.
Tout à fait, il y a toutes les références qu'il faut, ça s'appuie sur des annexes qui sont en effet conséquentes et qui à chaque fois détaillent les phrases utilisées par les différents auteurs et leurs différentes théories. Chaque théorie est présentée et chaque élément est à analyser avec les phrases de l'époque de manière à se faire une petite idée puisqu'en fait on revisite totalement la théorie de l'évolution biologique à travers une enquête sur l'histoire des idées. C'est donc aussi une enquête historique.
Historique, c'est-à-dire que tu nous files l'évolution sous une forme...
C'est-à-dire qu'on regarde comment l'évolution est traitée par les livres, en règle générale, ouais. Qui commencent très souvent par Lamarck, etc., Buffon, mais on revient aussi à Maupertuis, on revient aux tout premiers auteurs de l'évolution biologique pour voir ce qu'ils ont dit. Par exemple, Maupertuis, il a dit des choses tout à fait fascinantes sur la manière dont l'évolution se faisait à partir de petites erreurs, etc. Et donc, toutes les phrases de ces auteurs-là sont recitées pour petit à petit avancer et comprendre en fait pourquoi ils ont été en partie tus dans l'histoire évolutive au profit de la grande découverte de Lamarck. En fait, ce manifeste pour une écologie évolutive se propose aussi bien de réfuter certaines idéologies qui parcourent la science du vivant, comme par exemple la marchandise, la biomendicité, etc., l'eugénisme bien sûr, que d'esquisser les fondements d'une proposition, d'une nouvelle synthèse évolutive qui intégrerait les découvertes les plus contemporaines. Alors, il ne s'agit pas de quelque chose qui dessine déjà la synthèse, il s'agit simplement de proposer des éléments qui pourront permettre d'ouvrir cette synthèse.
Donc, disons un regard différent que tu vas poser en analysant tout cela. En fait, tu fais une analyse critique des idées qui prend donc l'aspect d'une enquête policière et historique. D'un certain point de vue, la biologie va se situer de cette manière à deux niveaux. Donc, nous aurons les personnes scientifiques qui ont participé, contribué à cette histoire, et d'un autre, l'évolution des êtres vivants qui se sont succédés. Alors, c'est bien Lamarck qui a dit que l'évolution était une histoire.
Oui, le découvreur de l'évolution biologique, celui qui a vraiment fondé l'histoire naturelle, c'est Lamarck. En fait, chez Buffon, la théorie de l'histoire naturelle n'est pas vraiment historique. Avec Lamarck, il y a un fondement très important pour l'évolution biologique, c'est l'idée d'une descendance et que c'est la descendance qui va constituer petit à petit à travers son histoire des erreurs, des petites modifications organiques et qui va construire ce qu'on appelle la biodiversité. Donc en analysant la formation de toutes ces idées, ce livre nous entraîne dans une enquête qui va confronter les premiers arguments de Lamarck, les arguments de Darwin, jusqu'à l'élaboration de la théorie évolutive, dite théorie néo-darwiniste, ou encore la nouvelle synthèse, ou dite encore maintenant théorie moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'à chaque fois, la trajectoire de ces conceptions est aussi parcourue par les préjugés et par les idéologies des différentes époques.
Quels exemples tu peux nous en citer ?
Enfin, le concept fondamental de reproduction différentielle étant presque totalement absent du discours biologique, au profit du terme explicite de sélection naturelle, nos contemporains ne le conçoivent pas du tout comme un des traits essentiels de l'histoire évolutive. À vrai dire, le plus souvent, l'idée de reproduction différentielle est presque entièrement méconnue, ignorée, même dans des manuels ou dans certaines revues de vulgarisation scientifique, laissant la porte ouverte à l'hypothèse que l'évolution serait terminée, ou du moins largement inopérante, au sein d'une humanité qui aurait abandonné la nature pour la technologie. Il est difficile de cerner comment l'enseignement tolère que de telles lacunes éducatives perdurent, quand l'évolution devrait être comprise comme la dynamique fondamentale du vivant et en constituer la base éducative.
Et voilà, par exemple, à travers cet extrait, on voit très bien qu'une des questions essentielles, celle de la reproduction différentielle, c'est-à-dire le fait que chacun des individus se reproduit différemment des autres, est très souvent absente de la théorie évolutive.
Car en fait, toute la théorie évolutive commence avec Lamarck.
Oui.
L'évolution est la seule explication scientifique à la diversité biologique et c'est Lamarck qui va mettre en œuvre ce paradigme évolutif qui va donc traiter de l'histoire des êtres vivants en comprenant petit à petit que cette histoire repose sur la transformation. Car les êtres vivants n'existent qu'en cela qu'ils se transforment. Et bien sûr, c'est évidemment le point central. Après, il va falloir chercher comment ces êtres vivants se transforment et c'est là qu'il y a des débats qui se sont mis en place.
Oui. Parce qu'effectivement, l'autre fondateur, c'est Darwin. Qu'a-t-il apporté par rapport à Lamarck ? C'est la sélection naturelle, mais finalement, c'est quoi qui est sélectionné ?
Alors, l'apport de Darwin est très souvent gonflé à travers ce qui a été dit. Alors, on le montre bien dans le livre parce qu'on voit combien chez Darwin il y a eu des hésitations, des erreurs. Les discussions avec Wallace ont eu beaucoup d'importance. Mais en fait, c'est vrai que Darwin a découvert un principe matérialiste qui est celui de la sélection naturelle des meilleurs. Alors ça, c'était son grand principe. Certains individus sont sélectionnés, ils vont donc survivre, la sélection c'est leur survie, et leur reproduction, parce qu'ils ont un avantage sur les autres. C'est cette idée de la concurrence qui va être chez Darwin le moteur essentiel de la théorie évolutive. Et donc on va voir petit à petit que cette évolution qui se passe à travers la concurrence des meilleurs va poser quelques problèmes. Donc Darwin va être obligé de rectifier une partie de sa théorie en inventant par exemple la théorie de la sélection sexuelle, où là d'autres facteurs que ceux de survie vont favoriser la reproduction, et tous ces petits éléments vont évidemment avoir une incidence très importante sur la théorie évolutive. Mais entre Lamarck et Darwin, il y a eu des passages à vide, des transformations, notamment Charles Lyell, par exemple, qui a une importance capitale aussi dans la construction de la théorie, va apporter tout un ensemble de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces idées-là ne sont pas non plus sorties n'importe où. Avec Lamarck, on avait des idées égalitaristes qui sortaient du siècle des Lumières, avec l'hypothèse évidemment que l'évolution c'était le changement, le progrès, et qu'il y avait une histoire derrière. Avec Darwin, on va davantage privilégier les idées de concurrence, ce qui correspond quand même beaucoup à son époque.
Oui, c'est ce que tu situes aussi. L'apparition du concept de concurrence et des meilleurs vient aussi du contexte social.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une grande partie du darwinisme est assez inscrit dans les années 1880 avec des idées forces qui sont quand même aussi celles de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a quand même très peu d'idées qui sont tout à fait nouvelles. C'est l'idée d'une progression linéaire avec les meilleurs qui remplacent les moins bons. Mais le darwinisme va être obligatoirement corrigé car il y a des éléments qui sont trop, on va dire, qui ne colle pas. Par exemple, dans le premier texte de Darwin, Darwin propose que les baleines seraient issues d'un ours qui serait descendu dans l'eau et qui aurait ouvert grand la bouche et que la force d'ouvrir la bouche, il serait devenu finalement une baleine. On voit d'ailleurs là que c'est bien une théorie de l'habitude, qui est la même théorie que celle qu'on retrouvait chez Lamarck, et on voit très bien aussi que ça apparaît pas tout à fait crédible. En revanche, ces corrections sont aussi parfois un petit peu rapides. Par exemple, Haeckel et Weismann, qui vont fonder la théorie évolutive qui va célébrer Darwin autour d'un corpus relativement simple, qui est la survie des plus aptes, la sélection naturelle et la lutte pour la vie, vont avoir une importance évidemment capitale pour fonder ce qu'on va appeler le darwinisme.
En fait, si tu résumes, quelles sont les principales contributions de chacun ? Et en quoi diffère-t-elle, pour qu'on comprenne bien en fait la base de ton livre et de la réflexion après, pour aller vers une autre évolution de l'écologie.
On va dire que pour Lamarck, la théorie évolutive, c'est la théorie de la biodiversité, l'histoire de la biodiversité. Les êtres vivants ne peuvent se comprendre qu'en cela qu'ils se transforment. Il n'y a pas de principe vital. C'est quelque chose qui se suit d'un point de vue physique à travers de multiples petites erreurs de fonctionnement, de multiples petites modifications dans les besoins. Ça, c'est une théorie lamarckienne, la théorie des besoins. Et dans le fonctionnement de l'environnement et de l'espace. Tous ces circonstances, en quelque sorte, vont générer...
L'adaptation aux circonstances.
C'est ça, l'adaptation aux circonstances. Mais il utilise assez peu ce terme-là. C'est plutôt une histoire avec Lamarck. Darwin, ça va davantage être une théorie d'adaptation, justement. Mmh. Avec Darwin, il va chercher un principe général de l'adaptation qui est pour lui la survie des meilleurs. Alors, ce qu'il appelle les meilleurs, c'est les meilleurs dans un moment donné, bien entendu, mais il n'empêche que ce processus particulier résulte de la concurrence de certains qui sont moins bons que d'autres et qui vont permettre de passer le cap. Donc ça, c'est la contribution essentielle de Darwin. Mais Darwin lui-même était tellement peu
satisfait de sa propre contribution, qu'il va écrire 10 ans après un autre livre, toujours sur la théorie de l'hérédité des acquis. Il n'avait pas beaucoup d'idées sur ce qu'était l'hérédité, pas beaucoup d'idées non plus sur ce qu'était l'histoire. Et il va, pendant très très longtemps, minimiser finalement sa propre théorie. Donc c'est surtout après Darwin, à partir de 1896 et après sa mort, qu'on va voir arriver des gens comme Haeckel, l'allemand, et Weismann, par exemple, qui vont refonder un darwinisme beaucoup plus solide, alors beaucoup plus ancré aussi sur des idées eugénistes. On en reparlera sans doute tout à l'heure.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain, on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours.
Je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique c'est un bon gagne-pain, où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas, et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre, si tu veux, je t'en laisse, mais échange de bons procédés, si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu, ben nous serons les bienvenus.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Je ne sais pas où je vais,
je ne sais pas où je vais,
je ne sais pas
si le savais,
mais ça je l'ai jamais bien.
Nous écoutions La rue qui est à nous, Je ne sais pas où je vais. Nous, on sait qu'on est sur, nous revoilà donc sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu et sans publicité. Pour revenir, pour être bien clair sur le moment quand même important du darwinisme, qui est un moment clé de l'évolution, tu peux repartir sur ce point.
Oui, le darwinisme a donc fondé une grande partie du principe de la théorie évolutive sur un principe matériel qui était donc la concurrence des meilleurs et leur reproduction. Ce concept de reproduction avait déjà été utilisé par Lamarck, hein, qui disait bien que les individus étaient issus d'autres espèces, etc. Si on regarde Lamarck, on s'aperçoit que c'est par exemple lui qui a proposé un scénario de l'hominisation à partir du singe pour montrer que l'humain était tout à fait proche parent des primates et qu'à force d'erreurs, à force de petites modifications des besoins, l'humain avait pu se former à partir des primates. Alors le problème, c'est que Lamarck n'a pas insisté sur cette question des erreurs qu'avait soulevé Maupertuis, il a plutôt insisté sur le problème des besoins et sur une explication particulière, celle des habitudes, celle de la volonté de changer qu'avaient les êtres vivants. Il essayait de chercher un principe plus physique qu'il a trouvé dans les espèces les plus archaïques, mais dans les espèces les plus récentes, il a utilisé plutôt le terme de besoin. C'est ce mot-là que va lui reprocher Darwin en réutilisant l'hypothèse que c'est pas une question de besoin, mais c'est une question de sélection de ceux qui vont être aptes ou pas à la survie.
Et est survenu le néo-darwinisme.
Oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les travaux ont avancé, on a découvert des processus comme la mutation, par exemple, c'est-à-dire la transformation brusque de certains organismes. Et quand cette découverte a été faite, on a aussi associé cela à des découvertes de la génétique. Alors même si on peut discuter du travail qui avait été fait sur la génétique, hein, le croisement des petits pois, un peu les tricheries qui avaient été faites à l'époque, il n'empêche que les premières découvertes de la génétique ont permis de trouver qu'il existait un ancrage matériel de la transformation qui pouvait être le gène. Cette découverte du caractère héréditaire a évidemment tout modifié et a petit à petit construit ce qu'on va appeler le néo-darwinisme. Alors, durant tout le début du XXe siècle, ça reste en débat. On est plutôt dans une science eugéniste, raciste, sexiste, qui se développe, une biologie qui essaye de montrer qu'il existe des races, qu'il existe des éléments supérieurs et de comprendre l'évolution d'une manière parfaitement linéaire, comme une histoire de la supériorité de l'adaptation de certaines espèces et de d'autres. Et puis, arrivé dans les années 60, la génétique, il va falloir en faire quelque chose. Et donc, après la guerre, on va modifier tout ce point de vue-là en inventant ce qu'on appelle maintenant la théorie synthétique ou encore le néo-darwinisme, qui va par la suite se transformer en ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie moderne.
Quelle histoire! Donc, en fait, il semble qu'il y ait aussi des événements non prévus par le darwinisme qui font partie de l'évolution pourtant.
Alors c'est bien ça le problème, c'est que le néo-darwinisme a donc réussi à faire la synthèse entre la génétique, l'hérédité en quelque sorte qui était absente de Darwin. Hein. Darwin, il n'y a pas tellement d'histoire. Lamarck a beaucoup d'histoire, mais il n'y a pas l'hérédité. Chez Darwin, il n'y a pas du tout l'histoire. Et donc là, il fallait réintégrer l'histoire des individus à travers ce concept un peu bizarre qui est celui de l'hérédité, celui des gènes. Et quand on a réintroduit ça, on a trouvé un mécanisme simple pour parler d'évolution, c'est l'idée de la reproduction différentielle. Les individus se reproduisent différemment les uns des autres et certains vont donc laisser des gènes qui vont petit à petit présenter des mutations, des transformations sous l'effet de facteurs d'adaptation à l'environnement. Et donc, ces gènes vont rester et si ces gènes restent, évidemment, ils vont fonder des populations différentes. Le problème, c'est que ça marche bien pour les êtres dont parle Darwin, c'est-à-dire principalement les vertébrés, mais ça marche beaucoup moins bien pour tous les
êtres humains. Tu dis ça alors qu'on critique
en biologie, oui, tout à fait. On a affaire à celles qui sont apparues un peu les dernières dans l'évolution, comme notamment les vertébrés. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est les premières phases de la vie, alors qu'elles ne sont pas plus inférieures ou supérieures, hein, dans la réalité, sont des différences simplement. Mais dans la réalité, les phases les plus primitives de la vie ne correspondent pas bien à des mécanismes darwiniens. On arrive beaucoup, c'est très difficile de cerner comment on a pu fabriquer de la différence, comment on peut se fabriquer des nouveaux éléments. Par exemple, on a maintenant la théorie endosymbiotique de l'évolution, qui avait été déjà imaginée par Paul Portier dans les années 20 et qui a été reprise dans les années 70 par Margulis.
Un mot savant, peux-tu l'expliquer ?
Oui, c'est ça. L'idée de l'endosymbiose, c'est une idée très simple. C'est qu'au lieu de s'affronter, les individus, au lieu d'être en concurrence avec le meilleur qui survit, voilà des animaux, des individus, des espèces qui vont s'intégrer les unes dans les autres. Alors, on a au départ des bactéries, par exemple, qui peuvent rentrer dans des cellules, dans les toutes premières cellules du vivant. Ça, c'est des phénomènes très archaïques, hein, très anciens. Et ces premières bactéries vont former, par exemple, les chloroplastes, c'est-à-dire les petites parties qui vont permettre aux plantes de capter l'oxygène et le gaz carbonique pour fabriquer la photosynthèse, pour faire de la photosynthèse. C'est donc l'association d'une alpha-bactérie et d'une cellule prokaryotique, qui va former petit à petit cette première phase du vivant. C'est la même chose pour les animaux, avec l'introduction à l'intérieur de nos cellules des mitochondries, qui sont des petits, probablement là aussi des dérivés des alpha-bactéries.
Alors attends, là, ça se complexifie un petit peu.
C'est simple, hein, c'est des bactéries qui rentrent dans d'autres cellules.
Voilà, c'est simple.
Et donc, ces mitochondries sont entrées dans des cellules à un moment clé de l'évolution, celui de l'oxygénation, et c'est pour ça qu'elles participent maintenant au cycle de Krebs et à l'oxygénation de nos propres cellules.
C'est les poumons, quelque part, d'une...
Oui, pour simplifier, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que les mitochondries, elles ont leur ADN à part. Notre cellule, elle a son ADN dans le noyau. La mitochondrie n'est pas dans le noyau. Ça fonctionne de manière encore séparée, bien qu'elle soit associée. Voilà pourquoi on parle d'un mécanisme d'endosymbiose. Et ça, évidemment, ce n'est pas du tout prévu par la théorie darwinienne traditionnelle. Les mécanismes d'endosymbiose, les mécanismes d'association, y compris les mécanismes qui vont permettre la pluricellularité, ne sont pas bien compris.
Et puis, il y a eu des événements catastrophiques, comme par exemple les comètes qui auraient détruit les dinosaures.
Alors, on n'est pas sûr que les comètes aient détruit les dinosaures, mais on va dire qu'il y a un phénomène, en tout cas de coïncidence, avec l'apparition d'une comète au moment de la disparition de cette faune de vertébrés particuliers qui étaient les dinosaures du Crétacé. Et c'est vrai qu'à cette époque particulière, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas un événement darwinien qui permet d'expliquer ça. C'était des espèces parfaitement adaptées à leur environnement, c'est simplement que tout l'environnement va changer d'un seul coup. Et pour cela, on est obligé de faire appel à des événements catastrophiques, volcanisme, comètes, ce qu'on veut, pour montrer que l'écosystème dans son intégralité va d'un seul coup se modifier, va d'un seul coup se fragiliser, et que, évidemment, les espèces vont disparaître rapidement. Alors, on s'aperçoit évidemment ici que l'évolution n'est pas la phase graduelle de transformation génétique petit à petit, comme l'avait supposé au départ le néo-darwinisme.
Et il y aura, donc l'évolution là n'est pas que graduelle, hein, et il y aura des espèces qui semblent ne pas avoir évolué, comme par exemple, on prendra comme exemple le sélacanthe, l'ornithorynque, ça apparaît des vieilles espèces, comme
c'est
on
ça,
dit.
Ce sont des espèces qui sont stables, apparemment. On ne sait pas si elles sont stables. Alors, certains ne sont pas d'accord. Certains vont dire que non, elles ne sont pas stables, que ça suffit, qu'en fait, elles ont des modifications génétiques.
Mais en fait, d'autres... on a retrouvé des squelettes qui montrent qu'à différents moments, qu'ils sont toujours...
C'est ça, le sélacanthe actuel est très proche des formes du Crétacé, donc c'est des batailles un peu de spécialistes de savoir si ça a changé ou pas changé d'un point de vue génétique. Toujours est-il qu'il y a en effet des stases évolutives, c'est ce que Gould va appeler par la suite la problématique des équilibres ponctués, c'est-à-dire que les espèces semblent évoluer, puis paf, d'un seul coup, ça semble s'arrêter, et les espèces semblent avoir atteint un certain niveau sans bouger. Alors tous ces éléments-là posent évidemment des problèmes dans la compréhension de la théorie évolutive, puisque on voit bien que ça... Ce sont des composants qui ne correspondent pas à l'habituel discours de l'évolution graduelle et darwiniste.
We'll be right back.
Nous sommes toujours en train de parler du livre « Manifeste pour une écologie évolutive, Darwin et après ». Donc, manifestons, voyons ce que cela va donner. Et vous écoutiez Dosey Cooper d'après le film « Pop Redemption ». Alors, revenons à cette notion que tu développais des équilibres ponctués de Gould.
Oui, c'est-à-dire que l'idée que l'évolution n'était pas linéaire et que l'évolution pouvait comporter des moments de rapidité, d'accélération, est une idée qui ne peut pas coller avec la théorie traditionnelle des gènes et de leurs mutations, de leurs modifications, de leurs erreurs, telles que ça avait été imaginé par Maupertuis au départ. Maupertuis n'avait pas imaginé les gènes parce qu'il ne les connaissait pas, mais il avait imaginé l'évolution des erreurs de caractère, comme cela, et que Darwin a repris par la suite. Ça ne pouvait pas, tant qu'on n'avait pas découvert des gènes particuliers, comme par exemple les gènes homéotiques. Mais on va voir que tout ça, c'est un peu plus compliqué. En fait, l'apparition de la génétique a vraiment entraîné une nécessité de rénovation théorique et qui donc a modifié certains concepts darwiniens, notamment les plus contestables, comme la concurrence, le progrès, enfin tout ce qu'on pouvait retrouver là-dedans, au profit d'une théorie très générale qu'on appelle le néo-darwinisme, qui est une théorie de la propagation des bons gènes, c'est-à-dire des gènes favorables à l'adaptation selon les définitions de Mayer et de Simpson, par exemple. La sélection, c'est donc du coup une invasion de gènes favorables dans des populations biologique.
Et après, on a Dawkins aussi qui intervient.
Oui, parce qu'en recentrant la théorie évolutive sur la diffusion de gènes favorables, ça a favorisé l'apparition d'un nouveau paradigme, c'est celui de gènes égoïstes de Dawkins.
Gènes égoïstes, alors oui, là, c'est un peu anthropomorphique.
Il faudrait faire une émission totale sur Dawkins, parce que vraiment, c'est une théorie simple, intéressante et qui est une des plus consensuelles, mais elle pose un véritable problème. On va dire qu'elle est dans la continuité d'un darwinisme officiel, c'est une théorie très orthodoxe, qui est centré sur le gène et qui dit en quelque sorte que ce sont les gènes qui se reproduisent tout seuls, c'est ça un peu l'histoire de l'évolution. Les gènes se reproduisent, et nous, les organismes, ne sommes que les outils pour que les gènes se reproduisent. Et puis il y a eu d'autres éléments qui sont venus modifier tout ça, comme par exemple la découverte de la dérive génétique, la découverte des gènes neutres par Kimura, par exemple, qui ont montré que certaines variations de gènes pouvaient être non sélective, pourrait provenir de processus non sélectifs. Alors tout ça, évidemment, ça...
Ça va à l'encontre, quelque part, d'un effet sélection naturelle, c'est quand ça. Tu dis non sélectif, c'est-à-dire...
Non sélectif, non darwinien, ça veut dire que les gènes peuvent se changer sans qu'il y ait pour cela une sélection des meilleurs gènes ou quelque chose de... C'est des phénomènes accidentels et le hasard commence à prendre de plus en plus d'importance.
Et donc le reproche que tu fais à la recherche biologique, c'est quelque part d'oublier l'évolution. En fait, tu dis que c'est traité un peu de manière accidentelle, mais pourquoi c'est important de ne pas oublier l'évolution, en fait, dans toutes tes recherches.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la manière dont on a traité le vivant, pour l'instant, à travers l'agriculture ou la médecine, par exemple, a toujours été de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces qui nous faisaient de l'ombre, des insectes ravageurs, des bactéries qui nous faisaient de l'ombre, et la seule technique qu'on a essayé d'utiliser pour lutter contre les maladies ou contre autre chose, c'est d'essayer de les détruire. On essaie toujours de détruire. Alors le problème, c'est que ça a marché pendant un temps, mais on voit très bien qu'en faisant cela, on a justement participé de mécanismes sélectifs et d'autres mécanismes qu'on connaît moins bien.
On sélectionne les résistances quelque part aux bactéries, malheureusement.
Tout à fait, de sélectionner les résistances. Et en fait, on a oublié que la théorie de l'évolution, que la recherche sur l'évolution devait permettre de trouver un petit peu mieux de choses. Et donc, en oubliant tout ça, on est en train de proposer à nos contemporains un monde qui est bien moins bien que celui qu'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'on leur laisse un monde bourré de pollution, bourré de pesticides, et avec des tas de produits qui ne fonctionnent plus, parce qu'on a oublié, en effet, le processus évolutif. Alors, oublier, c'est un peu beaucoup dire, oui. Il y a des gens qui ont travaillé dessus, mais la manière de travailler sur le processus évolutif est restée tout à fait inscrite dans des idées simples qui sont celles de la concurrence évolutive.
C'est-à-dire que là, il faudrait proposer ça à un regard différent, quoi, en fait.
Oui, il faudrait qu'on revoie ça.
Donc, le néolarmacisme est une manière de poser les choses différentes.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Disons que, à travers la découverte de ces espèces panchroniques telles que Paul Grasset ou d'autres, par exemple, les ont développées. On en a parlé tout à l'heure. Le sélacanthe, par exemple, qui semble avoir arrêté son évolution, ou d'autres espèces qui semblent ne pas évoluer. On a posé la question du rythme de cette évolution et surtout du fait que c'était pas nécessaire que la concurrence agisse. La preuve, puisque des espèces peuvent apparaître ou peuvent se séparer sans pour cela qu'il y ait un processus apparemment sélectif qui soit en ligne de compte. Alors c'est discutable parce que les gènes changent quand même, donc tout dépend de la vision qu'on a du néo-darwinisme. Mais on s'est opposé, notamment Gould par exemple, s'est opposé au développement de cette synthèse néo-darwiniste en révélant qu'en effet les choses avaient pu se modifier différemment. Et il y a d'autres auteurs qui ont également découvert tout un ensemble de pans nouveaux, comme l'insertion de nouveaux gènes, les transferts horizontaux, enfin tout un ensemble d'éléments de ce genre, des choses plus complexes hein, que je décris très sommairement dans le livre, mais dont je fais un petit peu la liste, qu'on appelle souvent du néo-lamarckisme, mais qui montrent en fait des modèles qui ne collent pas avec le darwinisme. Disons que ce sont des mécanismes non sélectifs et qui sont pourtant des mécanismes évolutifs dans la mesure où ils apportent des éléments qui vont fournir un avantage ou qui vont fournir quelque chose aux individus qui leur permet de mieux vivre ou de vivre différemment, voire de s'adapter à leur environnement. Alors c'est cette version qui inclut tous ces pans de découverte évolutive qu'il faudrait maintenant commencer à mettre en place plutôt que de supposer, plutôt que de rester ancré dans une vision purement proche du modèle de Dawkins par exemple, qui considère que le gène est la seule cible de l'évolution. Gould par exemple répond que la cible de l'évolution ce n'est pas que le gène, que les gènes n'ont pas d'interaction avec l'environnement et que ce sont plutôt les individus qui sont la cible de l'évolution.
Et donc réintroduire toutes les notions de hasard.
C'est ça, la question de la nature de la cible de la sélection fait intervenir tout un ensemble d'éléments complexes qui nous permettent en effet de comprendre que le mécanisme évolutif pourrait se situer. Alors, pour l'instant, on dit souvent à plusieurs niveaux, mais dans la réalité, je pense qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait développer. Ce n'est pas simplement une question de hasard, c'est aussi bien sûr d'autres questions, des questions d'interaction entre les individus. C'est pour ça que je parle, moi, d'écologie évolutive.
C'était Eddie Cochrane, Jenny Jenny. Et maintenant, Chris.
De retour sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science en liberté.
Nous parlons de ton livre qui est Manifeste pour une écologie évolutive, Darwin et après, et qui nous montre comment l'évolution des idées se fonde pour construire la science quelque part. Et on note qu'il y a eu des oppositions réactionnaires au darwinisme, notamment le créationnisme.
Alors, souvent, on parle en effet d'opposition réactionnaire au darwinisme à travers le créationnisme. Mais en fait, ce n'est pas une opposition au darwinisme, c'est une opposition à la théorie évolutive, ce qui est très différent. Le créationnisme prétend en effet qu'il n'y aurait pas d'évolution, mais que les êtres vivants seraient issus d'une création divine. Et ils utilisent pour ça un argument qui est simple, qui est celui de la perfection absolue. Les organismes étant parfaits, il faudrait les expliquer par autre chose. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, puisque ça sort en fait de la vieille théorie de la machine qui voudrait que pour fabriquer une machine parfaite, il faut bien qu'il y ait un grand sélectionneur, un grand créationneur qui ait fabriqué cette machine. Mais ces oppositions réactionnaires ne sont pas que des idées. Elles ont en fait jamais cessé depuis le début. Avant, elles étaient fixées dans les États parce que l'école appartenait en quelque sorte aux églises. Mais petit à petit, évidemment, avec le darwinisme, et notamment avec les positions sélectives du darwinisme, le créationnisme est devenu beaucoup plus fondamental. Alors, il a pris des aspects religieux, qu'on connaît bien, des oppositions réactionnaires religieuses, mais il y a aussi des aspects laïques, qui s'inscrivent dans toutes les confusions ésotériques habituelles. En fait, en s'appuyant sur les idées, on va dire les idéologies qui ont parcouru le darwinisme, et notamment l'eugénisme, puisque l'eugénisme a été fondé par le cousin de Darwin en 1880. À l'époque, Darwin était encore vivant. C'était Galton qui a fondé en 1883 l'eugénisme. Mais c'était vraiment une idée de leur temps. Et on voit très bien à travers la traduction, par exemple, de Darwin par Clémence Royer, combien elle souligne l'importance de cet eugénisme. L'eugénisme, c'est l'idée qu'on peut améliorer les choses, qu'on peut améliorer les êtres vivants en les sélectionnant et surtout en manipulant. Actuellement, c'est plutôt en manipulant leurs gènes qu'on peut faire ça. Ces idées-là sont très très présentes, la preuve d'ailleurs, puisqu'on fait des organismes génétiquement modifiés, puisqu'on propose tout un ensemble d'autres modifications. Et donc, c'est en s'appuyant sur ces errements eugénistes que les créationnistes ont pu dire que Darwin était en quelque sorte le diable, quoi. Sauf que, évidemment, eux, ils proposent quelque chose qui est très différent, puisque ils admettent évidemment des idées de religion, ils imposent tout un ensemble d'éléments, et ils supposent une biologie qui n'existe pas.
Et en fait, il y a par exemple la famille qui finalement n'a rien de naturel et pourtant on la pose comme quelque chose d'absolu. Les religions sont d'ailleurs complices de ce phénomène.
Tout à fait. C'est-à-dire que la biologie sur laquelle reposent les hypothèses biologiques sur lesquelles ils essaient de faire reposer la nature des choses n'existe pas. Ce ne sont pas des réalités biologiques. Le pape, par exemple, a dit qu'il refusait la notion d'évolution et il parle de famille naturelle. Mais dans la réalité, cette famille naturelle n'existe pas. Ça dépend des espèces. La construction n'est pas une construction familiale, les individus ne sont pas là pour fabriquer des descendants, le sexe n'est pas dépendant de la reproduction, enfin bref, il y a tellement de choses qui sont des aberrations biologiques que, évidemment, s'appuyer sur ces aberrations pour dire que les normes que posent les religions seraient des bonnes normes, pose un véritable problème. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra répéter parce que c'est vrai que ces gens-là ne sont pas que des religieux, ce sont d'abord des gens qui essaient d'imposer des normes, des idées normatives de leur société et qui veulent, évidemment, que ces normes régissent la société elle-même, qui veulent construire la société selon tout un ensemble de règles qui sont leurs règles à eux d'interprétation de vieux textes archaïques dans lesquels qu'ils considèrent eux comme sacrés et dans lesquels ils trouvent évidemment des éléments pour imposer leur dictature.
Pourtant, les néo-darwinistes passent aussi beaucoup de temps à dire que la biologie est compatible avec la religion.
Alors, c'est précisément là où on voit très bien que cette question du créationnisme contre le darwinisme est assez ambiguë, puisque, en effet, il y a beaucoup de publications scientifiques qui n'arrêtent pas de dire que la religion a de l'importance. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre disant qu'il y avait eu le gène de la croyance en Dieu qui a été découvert. Hein. Il dit que c'est la sérotonine, le gène de la croyance en Dieu. Il y a le gène de la monogamie, le gène de ceci, le gène de cela. On voit très bien que beaucoup de néo-darwinistes, fondamentalement aussi parce qu'une grande partie de la science est actuellement américanisée et que les Américains se fondent sur une hypothèse divine pour fonder leur propre société, et même sur le billet de banque, c'est marqué qu'ils croient en Dieu. Donc ces événements-là sont évidemment très importants pour essayer de faire croire que l'évolution, que la biologie même serait compatible avec la religion. Or ça, évidemment, c'est complètement stupide. On ne peut pas faire de la science si on fait, si on croit en une religion quelconque, puisque ça veut dire qu'on assujettit sa raison à une révélation divine. On ne peut pas assujettir sa raison à une révélation, puisque le scientifique, il doit d'abord douter, réfléchir, et au contraire, justement, utiliser sa raison. Donc on voit bien qu'il y a là incompatibilité totale entre la religion et la science. Et pourtant, beaucoup de scientifiques jouent sur l'ésotérisme, sur le sensationnalisme. Par exemple, il y a eu la publication du chromosome Adam, il y a eu la publication de l'Ève mitochondriale, il y a eu cette fameuse gêne de la croyance en Dieu, sans compter tous ceux qui sont plus sérieusement dans leurs bouquins en train de dire que non, la biologie ne gêne pas la religion, que la religion ne gêne pas la biologie, rayant d'un trait de plume toutes les batailles qu'il y a eu et tous les biologistes qui ont été condamnés au bûcher parce que justement ils essayaient de travailler autrement. Alors, sans parler de toutes les ambiguïtés qu'on trouve dans les textes, hein, qui ne facilitent pas le fait de comprendre le problème. En fait, je répète, hein, la religion met sa raison sous la domination de sa croyance et ne peut donc pas faire de la science. Il faut redire clairement qu'on ne peut pas faire de science en niant le principe même de la science qui est la raison.
Eh oui, croyance, c'est quand même différent. On a le mot croire. On a aussi un autre élément, c'est l'intelligent design.
Alors, l'intelligent design, c'est un petit peu autre chose. C'est une confusion, là encore, intégriste, qui a été menée d'un point de vue un petit peu scientifique. En fait, ça veut simplement dire qu'il y aurait un dessein intelligent qui gouvernerait le monde en remontant le plus loin possible. C'est-à-dire que si on ne peut pas remonter au déluge, on va remonter à un peu avant, ou encore avant, et à la limite, on peut aller comme ça jusqu'au Big Bang, en disant « oui, mais il y a bien quelque chose qui a fait le Big Bang, etc. » comme si c'était nécessaire de comprendre qu'il n'y a rien qui fait que deux aimants s'attirent à part des forces physiques. Or, la volonté de ne pas croire à l'importance des forces physiques, de ne pas considérer scientifiquement les forces physiques, les constructions organiques, etc., comme des éléments qui permettent de faire émerger les êtres vivants, a conduit en effet à l'invention de ce concept particulier qu'est l'intelligent design, et qui fait partie de la même confusion intégriste que les autres.
Tu parles aussi d'idéologie, de la confusion, de l'intégrisme.
Oui, parce que tous ces idées-là surfent en quelque sorte sur des éléments comme par exemple le sexisme de la théorie évolutive, sur le fait qu'il y aurait des différences entre le cerveau des hommes et des femmes, surfent aussi sur les idées eugénistes encore, hein, du genre on va sauver les bébés de nouvelles maladies grâce au fait qu'on va sélectionner leurs gènes. Alors évidemment, comme si c'était toujours le gène qui était la cible d'évolution, et en repartant toujours sur ces éléments particuliers, on oublie précisément que c'est pas le gène qui est le moteur de l'évolution, mais que ce qui construit l'évolution, c'est d'abord les processus d'expression des gènes, et l'expression des gènes peut participer soit de phénomènes sélectifs, soit de phénomènes non sélectifs, etc.
C'est pas simple à comprendre cette notion d'expression des gènes, parce que quelque part, ça veut dire que nous, les individus qui portons des gènes, finalement, c'est nous l'expression quelque part.
Alors, pas tout à fait. Il suffit de penser à quelque chose de relativement simple. Les oreilles, par exemple, avec lesquelles nos chers auditeurs sont en train de nous écouter, sont en fait au départ les gènes qui les ont formés, c'était des gènes qui participaient à la construction des branchies chez les poissons. Et donc, ce sont les mêmes gènes que ceux des branchies qui, petit à petit, sont devenus les gènes de nos oreilles. On voit très bien ici que ce qui compte, ce n'est pas le gène, mais l'expression des gènes. Et on ne sait toujours pas ce que c'est que l'expression des gènes, puisque les gènes s'expriment de manière très complexe, en multiples réseaux. Enfin, tout ça, c'est vraiment très complexe. On a vu, par exemple, que le grand travail qui devait être fait de séquençage du génome humain n'a absolument pas permis, pour l'instant, d'avancer dans quelque chose. On sait juste que l'humain a 25 000 gènes et que c'est 25 000 combinaisons possibles. Et donc, au bout du compte, on n'en comprend plus vraiment tous les tenants et les aboutissants.
Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto é uma cor, mas também é minha preta. Cor e pele preta, sem se misturar. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto que tem resolvida a sua cor, não tem que se impor, nem que se curvar. Saber gingar.
ajeita quando tem cabeça feita. Que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita e como negro me respeita, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. A gente ajeita quando tem cabeça feita. Que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita e como negro me respeita, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Tem nada a ver com a cor. Alguém samba, mas quer ver? Tem tudo a ver com a cor. Saber gingar. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto é uma cor, mas também é minha preta. Cor e pele preta, sem se misturar. Ih, é comigo. Tem nada a ver com a cor. Alguém sambar. A gente ajeita quando tem cabeça feita. Que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita e como negro me respeita, aí sim, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. A gente ajeita quando tem cabeça feita. Que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita e como negro me respeita, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal.
Vem, meu povo, canta comigo, vem.
Tem nada a ver com a cor. Alguém sambar.
Mas olha só.
Tem tudo a ver com a cor. Saber gingar. Tem nada a ver com a cor.
Não tem mesmo.
Alguém sambar.
Então mostra pra mim.
Só quem é preto ilumina porque é preto. A cor é preta, mas também é minha preta. E só pra quem tem resolvida a sua cor, não tem que se impor, nem que se curvar. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou teu preto, negro, velho, coisa e tal. Pretinho, negro, velho, coisa e tal.
Nous écoutions Preto, Cor Preta, Giorgio Aragao. Excusez mon accent. Donc, on va revenir là à Radio Libertaire.
Car vous êtes, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste, dans une émission faite pour tous les cortiqués du bulbe et autres aventuriers de la science, Science en Liberté.
Et nous sommes toujours en train de lire « Manifeste pour une écologie évolutive » de Thierry Laudet. Si je comprends bien une chose quand même, c'est qu'il n'est pas simple de critiquer Darwin dans la mesure où, si l'on critique Darwin, selon certains, cela veut dire que l'on critique l'évolution même.
Oui, ça a été souvent ça, puisque Darwin a été longtemps associé à la seule théorie évolutive possible, la seule théorie matérialiste, à cause de cette hypothèse, évidemment, de la sélection naturelle. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il a quand même fallu attendre l'émergence de chercheurs féministes pour réfuter l'importance du sexisme de la théorie. Alors là encore, vous trouverez toutes les références dans le livre, hein, dans les annexes. Il y a des phrases de Darwin, les éléments qui montrent tout ce qui pouvait être. Un peu comme la science a longtemps été raciste, il faut rappeler que la biologie a été extraordinairement raciste dans ses débuts, la génétique également. Eh bien, la science a aussi été évidemment terriblement sexiste. Et il a fallu dépasser une grande partie de toutes ces conceptions arbitraires du néo-darwinisme.
Quelque part dépasser la notion des meilleurs.
Oui, la notion des meilleurs. Enfin, il y a plein d'aspects clés de la théorie moderne, comme la concurrence, la référence à l'égoïsme, les manifestations génétiques qui ont été interrogées par des nouveaux modèles, comme la reine rouge, l'exaptation, l'épigénétique, les transferts horizontaux. Et tout ça, ça a contesté progressivement la suprématie de la réduction d'une biologie évolutive à la seule sélection des gènes. Alors on l'a vu, c'est plus compliqué que ça. En plus, il y a beaucoup d'incertitudes autour de mots comme sélection naturelle ou comme concurrence qui fait que petit à petit, en fait, on a arrêté de considérer la théorie évolutive que prenait la théorie néo-darwiniste au profit d'une nouvelle théorie qui est en quelque sorte, on va dire, quasi lamarckienne, puisque maintenant, on considère l'évolution comme le changement dans les fréquences de gènes d'une population à l'autre, sans du tout dire ce qui pourrait faire glisser ces changements de fréquences de gènes, et en supposant même que des éléments très liés au hasard, comme par exemple la dérive génétique, etc., soient des éléments importants.
Et d'autre part, il y a la notion importante de choix sexuel qui a été évoquée par certaines chercheuses. Ça réintroduit la notion de liberté, de choix.
Tout à fait. Dans les années 80, la nouvelle interrogation de la théorie de la sélection sexuelle, notamment, et notamment par des chercheuses qui étaient un peu scandalisées par l'idée d'une théorie qui donnait à la femelle un simple rôle de passivité discriminante, a petit à petit conduit à découvrir qu'il y avait des choix sexuels. Et là, évidemment, on est dans une nouvelle introduction qui est totalement différente, puisque du coup, c'est la liberté qui est introduite en évolution. L'évolution va dépendre maintenant des choix des individus, que ces choix soient conscients, pas conscients, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on voit ici qu'on retrouve quelques éléments très proches de la théorie de la volonté de Lamarck, par exemple, et qui sont passés quasiment sous silence en essayant de passer pour des éléments très très darwiniens, alors qu'ici c'est évidemment l'évolution résulte ici des différents choix que les individus ont pris au cours de leur vie, même si certains de ces choix sont faits totalement au hasard ou totalement de manière sans qu'il y ait de guide vers le meilleur ou vers le moins bon.
Un autre point dans ton livre, c'est tout ce que tu abordes sur la notion de marchandise, de libre-échange. Quelque part, c'est toujours qu'est-ce que la diversité dans ce monde marchand ?
Oui, on va écouter un petit passage qui va être dit par Camille.
Le caractère trompeur de l'échange marchand consiste dans ce qu'il ne s'agit jamais d'un rapport entre des choses, mais d'un rapport de force entre les humains, basé sur la dépendance artificielle des uns envers les autres. L'exemple de l'esclavage facilite beaucoup la compréhension de la fabrication d'une marchandise. L'esclave n'est devenu une marchandise que lorsque le dessein de le vendre fut réclamé. Mais si l'esclave a pu devenir un objet marchand, c'est bien entendu qu'il résultait du rapport de domination qui précédait le rapport marchand et qui niait son humanité. Soit au nom du sous-homme, soit en justifiant sa non-mise à mort comme captif. Le marchandage nécessite toujours un rapport de force qui exige également d'être protégé par des instances particulières. Ces dernières imposent cette brutalité et avec l'État vont reconquérir le monopole de la violence. Le salariat découle directement de ces rapports de force asymétriques qui entraînent la vente obligatoire du temps de vie des salariés et non pas d'un travail, d'une nature des choses où chacun devrait avoir une occupation légitime.
D'où l'importance, l'influence du vocabulaire économique sur la biologie, par exemple, comme coûts et bénéfices.
Oui, c'est ça. En fait, on a deux manières de voir le libre-échange influencé. Mais il faudra vraiment qu'on en reparle dans une émission biologie et marchandises, parce que ça a beaucoup d'importance. Mais il y a vraiment deux manières dont le monde marchand influence la biologie. D'une part, par la biomendicité qu'il exige, par le fait que les biologistes sont de plus en plus assujettis, ils assujettissent leur propre travail au monde marchand, et par le fait qu'on introduit à l'intérieur de la théorie des concepts comme coûts et bénéfices, mais aussi comme dominance, etc., comme s'il s'agissait d'éléments naturels. Donc je pense qu'il est important de les interroger, c'est ce que je fais aussi dans un chapitre donc de mon livre, parce que l'interrogation de ces concepts nous permet de mieux comprendre que c'est pas quelque chose d'aussi naturel. Alors, c'est pas moi qui ai commencé, hein, c'est Trivers, qui, c'est un célèbre biologiste évolutionniste qui a essayé, il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, mais lui dernièrement vient de le faire, il a essayé de justifier biologiquement la nature du libre-échange, la nature du capitalisme, en disant que ça découlerait d'une aptitude biologique innée au mensonge et en la duperie, et il en conclut que le capitalisme serait génétiquement naturel. Or, pas du tout, parce que cette affirmation... là, repose évidemment sur des hypothèses, des idéologies qui s'introduisent dans la biologie. Or, il faut savoir que de plus en plus, les chercheurs scientifiques ont laissé tomber une quête de savoir désintéressée au profit de
peut-être privatisation. Peut-être pas tous, disons que...
Ah ben, les impératifs marchands sont quand même très présents.
Ils sont très lourds.
La science appliquée est très très importante. Mais c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, ça existait déjà à l'époque de Léonard de Vinci. Hein. Il a aussi travaillé pour les puissants. Mais cette idée que les scientifiques travaillent pour les puissants et pour l'État est souvent passée un peu de manière indifférente. On voit par exemple que les privatisations que la biologie fait sur certains éléments, puisqu'il faut d'abord les privatiser pour pouvoir les revendre après, ou la validité des concepts, tout ça pose des questions parce que c'est intégré dans une conception très autoritaire et très marchande de la connaissance. Et après, on va apprendre aux enfants cette conception autoritaire et marchande de la connaissance, comme si c'était ça la science. Et c'est bien entendu oublier le paradigme évolutif qui a conduit à développer les éléments, à comprendre ce qu'était la biodiversité. Or, cet oubli de la théorie évolutive dans la recherche, ça a contribué à aggraver la pollution de la planète, ça a aggravé à accroître la disparition des espèces. Alors, il y a eu des victoires provisoires contre les bactéries, contre les virus, contre les insectes, mais ce sont des victoires provisoires. On voit très bien que maintenant, il va falloir qu'on travaille davantage à comprendre l'écologie des espèces et on ne peut pas faire l'économie d'un questionnement du rôle social de la biologie.
Tu évoques même que la classification de la biodiversité est l'enjeu des marchands.
Oui, là aussi, il faudra qu'on en reparle, parce qu'en quelques secondes,
oui,
c'est difficile. Mais c'est vrai que la biodiversité est d'abord un concept marchand. Ça a d'abord servi, en effet, à fabriquer des nouvelles marchandises, à aller les chercher, et ça a conduit à des guerres. Hein. Tout est une question ici d'importance, parce qu'il y a évidemment derrière tout cela des enjeux d'appropriation privée de tous ces éléments pour fabriquer de l'échange commercial, mais aussi pour fabriquer du salariat, pour fabriquer du capitalisme. On ne peut pas dire que la science repose sur quelque chose qui est totalement neutre et totalement désintéressé. Il y a tous ces éléments qui parcourent la science et qui, des fois, intéressent plus certains biologistes que d'autres, qui se mettent d'ailleurs volontiers au service des puissants.
Tout est une question de regard. Hein. Quelque part, le capitalisme serait même justifié par une sélection des meilleurs.
Alors ça, c'est tout à fait typique. C'est-à-dire que depuis très longtemps, l'appropriation et les échanges commerciaux ont été des hypothèses que si on était riche, en gros, c'est parce qu'on avait réussi à l'être. Et que si on l'était, c'est peut-être qu'on avait des gènes qui le permettaient. Tout ça à travers une théorie scientifique qui est très discutable, celle qu'on appelle de l'écologie comportementale, qui est ni d'écologie ni du comportement, mais qui est l'idée que nos comportements dérivent de gènes. Et à partir du moment où nos comportements dériveraient de gènes, bien évidemment, ceux qui seraient les dominants auraient forcément acquis grâce à leurs gènes de dominance, en fait, ils seraient forcément les meilleurs. Et puis, ben, s'il y a des dominants, ça veut bien dire qu'il y a des dominés. S'il y a des gens intelligents, ça veut bien dire qu'il y a des cons, etc. etc.
Des
stupides, des imbéciles, si tu
préfères.
C'est-à-dire qu'on voit très bien que une grande partie de ces classifications-là persiste dans nos sociétés et que notre société, elle est non seulement mangée par la marchandise, mais que la recherche scientifique est de plus en plus organisée à travers ces pans de la science, de science naturelle, ces pans de marchandisation de variétés, de marchandisation de gènes, de micro-organismes. Or, les objets naturels ne peuvent pas être des marchandises. Pour qu'ils deviennent des marchandises, il faut d'abord qu'ils soient privatisés. Et cette privatisation, elle est forcée à grands coups de police, à grands coups d'efforts, de rapports de force. Hein. Le phénomène marchand ne découle pas d'un échange de choses naturelles, mais d'une appropriation qui fait de ces choses des propriétés privées.
Finalement, dans son livre Manifeste pour une écologie évolutive, tu manifestes aussi, d'un certain point de vue, contre le déterminisme de la société marchande.
Tout à fait. C'est-à-dire que le processus d'appropriation qu'utilise la société marchande est complètement différent d'un processus naturel. Et pourtant, souvent, c'est posé comme si c'était naturel.
Et du coup, ça devient normal. Quoi. Le problème, la norme, la nature. C'est les déterminismes. réalisme. Non. On a l'impression de cours de philosophie qui,
tout à fait,
qui reviennent en arrière.
Sauf que c'est souvent des concepts qui ne sont pas fondés, mm-hmm, qui reposent sur des choses comme si c'était, par exemple, l'idée qu'il y a la concurrence qui serait naturelle ou que l'égoïsme serait naturel aux individus, c'est posé comme si c'était quelque chose de fondamental et d'évident. Alors qu'on ne voit pas à côté qu'on utilise aussi la gratuité des rapports humains, qu'on a besoin des rapports de sélection, des rapports qu'on a besoin des rapports d'amitié pour fabriquer, par exemple, des équipes qui vont fonctionner, y compris dans les usines. Donc on voit très bien qu'il y a des tas d'éléments qui font partie du monde marchand, mais qui sont cachés et que certains autres éléments sont mis en avance comme s'ils étaient plus naturels que les autres. En fait, ce sont principalement les éléments qui vont favoriser le capitalisme et la société marchande qui vont être ceux qui sont mis en avant par la biologie. Et la biologie est prisonnière de ça aussi, puisque non seulement il y a ces phénomènes qui pénètrent la biologie, mais de l'autre côté, il y a les biologistes qui demandent sans arrêt d'argent, qui sont astreints à une biomendicité.
Dépendant. Oui.
Au même titre qu'on demande aux chômeurs actuellement de savoir se vendre, comme si c'était comme si les gens se vendaient alors qu'on ne se vend pas. On vend sa force de travail, on se fait avoir de ce point de vue-là, et comme si le salariat était une nécessité parce qu'il organisait le monde de manière naturelle. Alors le salariat n'est pas du tout quelque chose qui organise le monde de manière biologique ou naturelle, c'est bien entendu un rapport de force d'exploitation.
Mais qui implique plus de développement, n'est-ce pas ? Là, en simple, une simple émission, ce n'est pas simple de...
C'est très dur de dire tout ça en trois minutes. On va laisser la parole à Raoul Venegem.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curé, ni de marchand, de policier. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.
Tu proposes donc un dépassement du néo-darwinisme. Comment ?
Alors oui, il faut redire qu'on est maintenant obligé de parler d'une nouvelle synthèse qui intégrerait l'écologie et qui intégrerait notamment des agencements favorables à la survie et à la reproduction des individus. Alors que le néo-darwinisme est centré sur le gène, mais les gènes, ils n'ont pas d'interaction avec leur environnement. Les gènes dépendent des individus. Or, les nouvelles orientations scientifiques modernes montrent qu'il faut corriger en fait une grande partie de cette hypothèse sélective du néo-darwinisme. Et tout ça, ça dessine les contours d'un nouveau projet, d'une nouvelle synthèse, qui est capable d'incorporer des épisodes non darwiniens. Et si on prend en compte la reproduction différentielle, le principe d'efficacité en lieu et place de l'usage ambigu de la sélection, par exemple, eh bien, on va voir qu'on intègre beaucoup mieux toutes les récentes observations, toutes les récentes découvertes qui ont été faites. Et ça permet d'en finir aussi avec des concepts périmés.
Tu parles également de sexe dans ton livre « Manifeste pour une écologie évolutive ».
Oui, le sexe est un des éléments objectivement les pires, un des moyens objectivement les pires pour la transmission génétique. Donc si le sexe avait été utilisé par l'évolution pour favoriser la diffusion des gènes, on s'aperçoit très bien que c'était vraiment un très maigre avantage. D'abord, on peut en donner que la moitié de ces gènes, quand on est des individus sexués, non seulement on peut donner que la moitié, mais c'est très difficile à faire, il faut trouver le partenaire, il faut beaucoup gaspiller d'énergie pour le faire, et en plus on n'est même pas sûr de réussir. Le plus souvent, les avantages biologiques que le sexe apporte ne permettent pas de rendre compte d'une innovation évolutive. Par contre, si on regarde que le sexe s'est mis en place au cours de l'évolution biologique à travers une série de petites étapes non dirigées qui répondaient à des facteurs immédiats distincts, avec parfois très très peu d'avantages, voire pas d'avantages du tout, eh bien on s'aperçoit qu'on peut traiter l'évolution différemment. À mon sens, le sexe est un des exemples de l'établissement évolutif d'une interrelation complexe à partir de petits événements immédiats, sans lien les uns avec les autres. Le sexe est donc un mécanisme non darwinien d'échange de gènes qui a promu petit à petit pour les êtres vivants l'intérêt évolutif d'avoir des relations, de construire des divergences et d'organiser des mutualismes. En quelque sorte, l'élément principal du sexe, c'est qu'il oblige les êtres vivants à vivre ensemble.
Le sexe est non darwinien et tu as développé ça aussi dans les bulles libertines. Hein.
Allez, encore une petite lecture.
Allez, une petite.
De Camille.
Ainsi, j'ai pu décrire que le sexe, en tant que mécanisme non darwinien d'échange de gènes, a promu pour les êtres vivants l'intérêt évolutif d'avoir des relations et d'organiser des mutualismes. Plus même, il a obligé les organismes à élaborer cette relation intime d'échange génétique à partir de simples interactions archaïques. Même si l'évolution se comprend à travers la modification de la fréquence des gènes, il ne peut y avoir de diffusion des gènes sans relation. Le sexe est un exemple de l'établissement évolutif d'une interrelation complexe à partir de petits événements immédiats, sans lien les uns avec les autres. En quelque sorte, avec le sexe, chaque descendant présente un nouvel assortiment de gènes qui fait de chacun un individu hétérogénomique au sein de sa population d'origine.
Alors on voit bien, en effet, à travers toutes ces discussions, qu'il faut arrêter de privilégier la simple théorie de la sélection, mais qu'au contraire, il faut comprendre comment fonctionnent les agencements des êtres vivants les uns avec les autres. C'est cela, une écologie évolutive. Le sexe, ça constitue en effet l'un des éléments principaux de ces procédures, parce que ça nous oblige à comprendre que la relation est obligatoire. En fait, la distinction entre les êtres vivants, c'est l'apparition de la différence. Cette différence se fait grâce à une spécialisation de chacun, et cette spécialisation de chacun va conduire, si on ne se reproduit pas ensemble, à des divergences reproductives qu'on appellera des espèces. La question évolutive ne réside donc pas dans le gène qui se reproduit, mais bien davantage dans la diversification des êtres vivants, dans la diversification des phénotypes. Et donc là, on est vraiment dans un dépassement de cette théorie.
En fait, toutes tes problématiques de recherche sur le sexe, eh bien, t'amènent à développer l'esprit critique que peut avoir un scientifique, et tu le fais en proposant, en donnant de la place à l'évolution des différences. Et pourtant, la notion de différence dans notre société actuellement, elle n'est pas simple, je dirais, au vu de certaines pressions politiques.
C'est-à-dire que si on veut comprendre les mécanismes dont pour l'instant la théorie évolutive, le néo-darwinisme, ne rend pas bien compte dans l'évolution, comme par exemple la sexualité, bien, si on veut les comprendre, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Il faut qu'on passe à une autre thématique. Et la thématique la plus intéressante, c'est de ne pas s'arrêter à l'interaction négative de la concurrence, mais au contraire de comprendre que les relations que les êtres vivants construisent les uns avec les autres vont former la dynamique suffisante pour fabriquer de l'évolution. C'est un principe matériel qui est très connu, y compris en biochimie, très connu aussi en écologie, et que j'appelle la force structurante des interactions. Ça veut dire que quand on met des individus qui vont agir les uns par rapport aux autres, eh bien ça construit quelque chose, ça construit des structures, hein, c'est un peu l'idée d'une sorte de structuralisme, et ça révèle combien l'évolution, c'est l'histoire de ces millions d'agencements, des millions d'événements qui se sont organisés progressivement et qui ont permis de fabriquer des cellules à travers des molécules qui se sont agencées. Puis, ces cellules se sont agencées pour former des organismes, des organes même, ensuite des populations, puis ensuite des communautés. Tout ça à travers un modèle que j'appelle le modèle des poupées russes et qui permet de rendre compte du processus évolutif. Et là-dedans, ce n'est pas la peine de chercher des sélections à plusieurs niveaux. Ce qui va agir, c'est un ensemble de rapports où les individus vont se frotter en quelque sorte les uns aux autres, soit de manière très positive, comme dans les associations, soit au contraire de manière très négative. Et le sexe est évidemment l'un des meilleurs modèles pour rendre compte de ces mécanismes-là.
Déshabillez-moi de Juliette Gréco.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue. Peu à peu, déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi avec délicatesse, en souplesse, et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissant d'affaire de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder. Me consommer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-vous.
Eh bien voilà, l'évolution se construit d'abord de multiples différences et de milliards de mutualismes selon des mécanismes bioéquivalents à ceux qu'on appelle en biologie les déplacements de caractère. Nous y reviendrons. Mais dans l'enchevêtrement des milieux et de la matière, chaque espèce à terre réagit dans son environnement et dans l'environnement des autres. Et le fonctionnement des communautés et des systèmes n'existe que par ces associations subtiles et provisoires. Corollaire de ce que les êtres vivants résultent de ces milliers d'interactions immédiates, la vie n'a pas de sens et l'évolution n'a pas de direction. C'est cela que j'appelle une écologie évolutive, une coévolution écologique, Et cela pourrait constituer, si je ne m'abuse pas, et avec plein d'autres conceptions bien sûr, l'un des points de départ d'un renouveau de tout le paradigme évolutif. Ainsi, en questionnant les avancées de la connaissance, les grandes découvertes de la médecine et le rôle social de la biologie, de nouvelles perspectives se dessinent qui vont stimuler l'innovation sociale et scientifique de nos sociétés. Or, l'introduction de ces conceptions critiques et originales semble ouvrir une porte. Elles sont importantes car la science, c'est d'abord l'esprit critique. Et il faut pour cela aborder une nouvelle synthèse postmoderne, plurielle, une écologie évolutive qui va incorporer des épisodes non darwiniens que des épisodes darwiniens, des épisodes lamarckiens, enfin tout ce qui va souligner l'importance évolutive des interactions entre tous les êtres vivants. Nous ne vivons pas seuls sur la planète, nous sommes ensemble et chacun dépend des autres et des autres de chacun. Et c'est ce dépassement en cours de la théorie biologique qui constitue l'une des perspectives les plus enthousiasmantes pour tous les jeunes chercheurs, tous ceux qui tiennent à rendre la science populaire.
Au revoir Thierry, et merci d'avoir parlé de ton nouveau livre « Manifeste pour une écologie évolutive, Darwin et après ».
Aux éditions Odile Jacob, qui est sortie donc en novembre. Et bien moi, je te remercie, Siona, de tes questions pertinentes, et nous reviendrons bien sûr sur toutes ces questions, comme celle de la marchandise, par exemple, et de la biologie. En tout cas, auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio, ou bien en envoyant un email à l'émission, c'est sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous avons également une page web accueillie sur le site de Trou Noir, où vous pourrez retrouver nos émissions et les écouter, et peut-être même y faire des commentaires. Enfin, nous avons toujours le plaisir de vous retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste qui nous ouvre ses portes pour décortiquer la biologie et les idéologies qui la parcourent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, qui a donc été animée par Siona, avec Thierry Laudet, Camille, Chris et la complicité de Monique à Paris. La musique d'introduction est de Hicham Chahidi, et nous allons conclure sur une chanson de Renaud.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur, sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts. fin comme un oiseau. Cavardi, Pajot, Kersauzon et Riedel n'habitent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira.